Vous savez, l'ACPU représente plusieurs organisations syndicales à travers le Canada. Croyez-vous qu'il y a d'autres organisations à travers le pays à laquelle, auxquelles l'ACPU pourrait s'allier pour défendre un peu cette réaction qu'on devrait avoir face à ce qui se passe?
Oui, il y en a. J'oublie maintenant l'acronyme, mais il y a un groupe de scientifiques qui disent essentiellement la même chose que nous. Ils font un événement pour les politiciens qui s'appelle le petit déjeuner des têtes à Papineau. Et puis, ils essaient de transférer le même message que nous. Aussi, les syndicats des scientifiques gouvernementaux, le PIPS en anglais, je ne sais pas l'acronyme exact en français, mais eux aussi sont des alliés et nous faisons le même message. Alors c'est vraiment un message, ce n'est pas révolutionnaire ce que nous demandons, ce n'est pas vraiment trop extrême. Le public, ça résonne avec le public aussi. On voit dans les médias aussi, les médias sont franchement nos alliés dans ça. Ça leur intéresse beaucoup. Il y avait de grandes histoires publiées dans Maclean's très récemment et il y a plein de gens dans tous les différents secteurs de l'économie qui nous appuient. Alors, nous avons beaucoup d'alliés, nous faisons beaucoup de causes communes, c'est vrai.
Pour continuer de répondre un peu sur ce thème-là, moi, je peux être considérée comme une personne... ma carrière est basée sur le partenariat à travers le Canada. L'effet pervers que j'ai vu de diminuer la recherche fondamentale, c'est que j'ai eu beaucoup de RDC, les recherches et développement coopératifs, et j'ai toujours eu, disons, si je prends l'exemple de l'Université Laval, 4-5 chercheurs associés dans mon groupe de recherche qui étaient financés par le subvention à la découverte. Et moi, je facilitais, finalement, la logistique. Je suis une biologiste de terrain, donc la logistique, le logement, tout ce qui coûte cher. Ce qui fait que si tu as une petite subvention fondamentale, tu rentres dans le groupe, mais au moins, tu finances, tu formes très bien un étudiant de très près, plus tu fais de la recherche fondamentale qui bonifiait en synergie notre partenariat. Ma dernière chaire de recherche, tous mes partenaires ont perdu les subventions à la découverte. Et boum! Je me retrouve toute seule maintenant à faire ma recherche. On ne peut plus, tu sais, même si je suis en partenariat, j'ai bien indiqué à l'industrie, vous n'aurez pas le même, il n'y aura plus le même effet d'entraînement, le même effet de synergie. Fait que moi, j'ai trouvé très, très déplorable deux choses, de voir les budgets diminuer dans le fondamental, mais surtout, maintenant, on va pour les chercheurs étoiles, les stars. On fait un peu le modèle plus NSF. On donne des plus grosses subventions à quelqu'un qui est parti d'un laboratoire superstar en postdoc, puis on laisse tomber toute une partie de notre population universitaire qui faisait de la très, très bonne recherche de un à un avec un étudiant gradué. Puis on a besoin de tout.
Je suis d'accord. Et j'ai vu... toutes sortes de changements, moi aussi. Même comme médiévaliste, on n'a pas beaucoup de chance de faire des recherches orientées au partenariat. Mais en fait, ça arrive de temps à autre. J'ai un collègue qui faisait des travaux avec une compagnie qui développait un jeu vidéo qui s'appelle Assassin's Creed. Et moi aussi, j'ai participé à des films documentaires. Il paraît qu'il y en a des gens qui s'intéressent à l'histoire médiévale, qui savait. Mais même dans ce domaine-là, des études d'histoire médiévale, avec les changements dans les règlements, les concurrences, je vois des collègues qui commencent à changer leurs propositions pour satisfaire à ce qu'ils pensent que veut le CRFH. Si on voulait être plus rational, plus efficace, si on voulait faire tout d'une manière plus scientifique, on peut dire, on éviterait ces situations-là.
Robin, merci. J'ai une petite question du côté des étudiants. Parce que de toute façon, on a quand même un devoir de former les chercheurs du futur. Okay? Alors, on a de plus en plus d'étudiants qui veulent s'inscrire aux études de deuxième et troisième cycle. Et finalement, évidemment, on les forme pour faire la recherche. C'est quoi l'opinion à travers notre pays de la part des étudiants? On a dit hier quand même, on n'a rien contre la recherche appliquée. Il y a sa place comme il faut, mais de tout exclure ou exclure la majorité de la recherche du côté fondamental, c'est quand même pas acceptable non plus là. Alors j'aimerais bien savoir si une certaine opinion à travers notre pays de la part des étudiants qui sont les chercheurs de l'avenir.
Merci. Oui, c'est absolument vrai que une bonne politique de science, d'éducation comprend que les recherches fondamentales, c'est ça que font les étudiants, même en premier cycle. C'est dans ça qu'ils s'engagent. Alors, il y a d'autres politiques que je n'ai pas discutées qui impactent aussi sur les étudiants à ce niveau-là. Le fait de précarisation des professeurs. Et la précarisation, ça définit aussi les emplois que ces étudiants occuperont au futur. Alors ça, c'est déprimant. Nous voyons ça, nous voyons aussi que les étudiants, ils commencent à subir les effets du désengagement, si je peux dire, que nos administrateurs et des politiciens, parfois, ils pensent que c'est une bonne idée de détacher les recherches de l'enseignement. De vraiment de créer ces postes uniquement d'enseignement, de dire que les grandes stars devraient aller faire leurs recherches sans faire de l'enseignement. Alors, ce détachement, ça impacte vraiment sur les étudiants parce que c'est vraiment leur apprentissage, c'est de voir comment ça se fait la science, la recherche, même au premier cycle, et spécialement au deuxième, troisième. Alors, il y a toutes sortes de politiques universitaire que je trouve difficile pour les étudiants, négatif pour les étudiants. Et avec les étudiants avec qui j'ai parlé, ils le trouvent déprimant.